pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur. Seigneur, on te loue vraiment pour cette grâce d'être ensemble, cette grâce d'être une famille. Merci vraiment pour ton amour au milieu de nous, pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est là. Merci parce que tu habites en chacun de nous et tu nous réunis tous ensemble parce que tu veux simplement parler à chacun de nous. Seigneur, merci pour la grâce de pouvoir te louer et t'adorer ensemble. Merci pour tout ce que tu veux faire dans nos vies. Merci pour tout ce que tu veux faire dans cette ville. Merci pour tous tes projets. Merci que tu es un Dieu qui va de l'avant et nous te louons, Père. Seigneur, nous confions vraiment en toi pour tout ce que tu as désiré pour nous, au nom de Jésus. Je te demande vraiment ton aide aussi dans tout ce que je vais partager. Amen. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été dites ce matin, qui m'ont vraiment même parlé à moi. En particulier, bon, peut-être c'est en introduction, sur la création. Manuela a parlé de la création, on a chanté dessus. Et il y a quand même eu un verset qui m'est venu à cœur par rapport à la création. Si on prend dans Romains 8... Dans Romains 8, il y a marqué 19. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. L'autre version dit la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la création effectivement loue le Seigneur, elle adore Dieu, et en même temps il y a un soupir dans la création, il y a un désir, un ardent désir. Elle attend quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle souffre. Elle souffre. Une oppression qui est sur elle, il y a marqué une puissance de corruption qui l'a servi. Il y a un pouvoir de fragilité qui est sur elle, elle souffre. Et elle attend avec un ardent désir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend, la création? La révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, la création attend quelque chose, elle attend quelqu'un. Et elle attend qui? Elle attend qui? Elle attend Luc? Elle attend Manu? Est-ce qu'elle attend d'autres grands hommes? Non. Elle attend chacun de nous. Elle attend les grands, les enfants, les hommes, les femmes, les âgés, les jeunes. Elle attend nous. Elle a besoin de nous. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'elle attend que la révélation des fils de Dieu? Non, elle attend la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Il y a une gloire que Dieu veut mettre sur chacun de nous. Et la création attend cette gloire. La création, elle soupire. Elle attend la gloire. Elle attend la gloire, mais elle attend pas une gloire qui va juste venir comme ça. Elle attend ta gloire. Elle attend que la gloire de Dieu descende dans ta vie. C'est ta gloire que la création attend. Et si la création l'attend, c'est parce que Dieu l'attend. Dieu veut faire révéler sa gloire au milieu de nous. Et nous, souvent, on attend une gloire qui va venir et qu'on va admirer. Waouh, c'est beau. Mais je crois que Dieu va beaucoup plus loin. Dieu veut une chose, c'est qu'il veut faire descendre la gloire dans nos vies. Que nos vies soient transformées par sa gloire. Et cette gloire dans chacun des enfants de Dieu va sauver la nation, va sauver la terre. Amen. Et il y avait un verset que j'avais déjà à cœur avant de venir. C'est dans Psaume 37, 7. Vous pouvez le prendre aussi. Garde le silence devant Dieu et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et en fait, j'étais en train d'étudier par rapport à mon thème et je suis tombé sur ce verset et le verbe espérer m'a frappé. Vous savez pourquoi? Si je vous donne le mot hébreu, il y a marqué attendre, saisi d'angoisse, engendrer, danser, blesser, retomber, trembler, être effrayé, mettre bas, réussir, enfanter, espérer, être né douleur, se tordre, souffrir, fondre, tremblement. C'est un mot, il m'a laissé pantois. Et ça me fait penser à cette terre qui soupire. Je pense qu'elle est pareille, elle attend, saisie d'angoisse. Elle est transpercée, elle veut enfanter, elle espère, elle est dans les douleurs, elle se tord, elle souffre, elle attend. Et dans la création, qu'est-ce qu'il y a dans la création? Il y a nous. Nous faisons partie de la création. Et ta propre création, toi-même, tu attends la révélation de ta propre gloire. Tu as soif en toi, tu te tords, tu es saisi d'angoisse, tu espères, tu attends la révélation de ta propre gloire. Et tant que la révélation de ta gloire n'est pas arrivée dans ta vie, tu es dans l'espérance et dans l'attente, tu es incomplet, tu attends et tu souffres. Et c'est pas à l'extérieur que ça va venir, c'est pas de l'extérieur, c'est pas parce que des choses vont s'accomplir dehors que tu vas te retrouver ta plénitude et ta complétude et qui tu es en Christ. Tu vas le trouver quand la gloire de Dieu va remplir ta vie et quand ta propre création va trouver la révélation de la gloire de qui tu es en Christ. Et tant qu'on n'a pas cette gloire, on est malheureux. Tant qu'on n'a pas la gloire de Dieu qui est descendue dans nos vies, on n'est pas plein, on n'est pas complet. Amen. Et on a besoin de la gloire dans les autres. Parce qu'on est conscient de la faiblesse des autres. On voit bien la poussière chez les autres. Mais pourquoi ? Parce que chacun, on a besoin de la gloire de Dieu dans nos vies. Et nous devons prier, crier à Dieu, soupirer à Dieu, avec Dieu ensemble. Nous devons espérer dans la façon dont il attend. Saisie d'angoisse, enfantée, espérée comme Anne, elle a tremblé tout à l'heure, elle se tordait. Est-ce que ça veut venir dans nos vies ? Est-ce qu'on est prêt à cela ? Avoir tellement soif qu'on va se tordre devant Dieu jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Vous savez que je travaille avec Portes Ouvertes. On a pu aller en Hollande la semaine dernière. Et j'ai pu voir frère André et partager un peu de sa vie. Et les mots qu'il m'a dit, que moi j'avais déjà dans mon cœur parce qu'il écrit un livre là-dessus, mais que ça continue à résonner. Je cherche mes frères. Je cherche mes frères. Alors pour lui, bien sûr, c'était l'appel à soutenir l'église persécutée. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre dans cet appel. Et premièrement, c'est le cri du Fils de Dieu. Je cherche mes frères. Dieu te cherche. Le Fils de Dieu te cherche, toi. Nous, souvent, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de dire, c'est que les autres que cela concerne. On vient, on regarde et on attend que ça se passe. Et le Seigneur te cherche, toi. C'est toi qui compte. C'est toi qui es important. Personne d'autre n'est plus important que toi. Le Seigneur t'attend, toi. Il te cherche, toi. Et en plus, le Seigneur cherche ses frères. Il cherche ses frères dans l'église persécutée, mais je voudrais en parler peut-être une autre fois, mais il cherche aussi ses frères dans le monde, des frères qui ne sont pas encore venus à lui, qui doivent trouver le salut, mais ce sont déjà les frères du Seigneur, et il les cherche. Et le Seigneur nous appelle, il nous cherche nous, il cherche mes frères, il te cherche toi, son frère et sa sœur. Et si le Seigneur le fait, il y a l'appel en lui de nous chercher les uns les autres, de chercher, juste. Chercheras-tu ton frère, chercheras-tu ta sœur, là où il est, là où il se trouve. C'était ce que le cri de Anna. Je cherche mon frère. On doit le chercher au milieu de nous et on doit le chercher en dehors. Là où il se trouve, là où il est, là où il t'attend. On est appelé à nous chercher les uns les autres. Amen. Ça, c'était l'introduction. J'aimerais prendre dans Jean 14, rentrer dans ce que j'avais à cœur. Verset 15. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, un avocat, un soutien pour votre cause, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Amen. Mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je suis vivant, je suis la vie, et que vous aussi vous vivrez, et vous aurez la vie en vous. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Vous connaîtrez que vous êtes en moi, et que je suis en vous. On peut reprendre le psaume de 130 de Anne, qu'elle a partagé tout à l'heure. C'est ça, c'est le psaume 130, hein ? 132. Verset 13. En effet, l'Éternel a fait le choix de Sion et il l'a désiré pour résidence. J'ai envie de le crier. Je ne sais pas vous, mais chaque fois que je lis ce verset, il me remue. Il a choisi Sion pour demeure. Il l'a désiré pour habiter pour toujours. C'est le lieu de ma paix où je résiderai. C'est ici que je régnerai dans Sion que j'ai désiré. Je la bénirai en la comblant de bien et je rassasirai tous ces pauvres de pain. Amen. Le Seigneur t'a désiré pour résidence. Alors je ne sais pas quel est votre rêve de résidence. Nous, on rêve d'une maison. Qui c'est qui rêve d'une maison ? Il y en a qui ont déjà de belles maisons. Il y en a qui ont de belles résidences. Mais le Seigneur a un rêve. Il rêve d'une résidence. Alors le Seigneur a un ciel magnifique, un ciel de gloire, auquel on rêve tous. Je peux vous dire qu'il est beau, le ciel. Il est rempli d'anges, il est rempli de louanges, il est rempli de joie et de paix. Il est rempli de la gloire de Dieu. Et le Seigneur a une insatisfaction dans son cœur. Vous entendez l'insatisfaction dans le cœur du Père ? Il y a quelque chose qui crie dans le cœur du Père. Il espère toujours. Il attend encore la révélation des fils de Dieu lui aussi. Il attend et il désire une nouvelle résidence. Vous entendez l'insatisfaction dans le cœur du Père ? Il a tout. Il a tout ce qu'il veut. Il a le Fils auprès de lui. Il a l'Esprit. Il a les êtres vivants. Il a la gloire et la majesté des cieux et il y a une insatisfaction dans le cœur du Père. C'est incroyable. Je l'ai désiré. Le mot désiré, je pense qu'il est un peu faible dans notre français. Moi, je n'ai pas regardé, mais je sais bien que quand le Seigneur désire quelque chose, c'est un vrai trou noir, c'est une aspiration, c'est l'aspiration la plus puissante dans le monde qu'on puisse connaître. C'est un cri dans le cœur de Dieu qui monte et qui remplit les cieux. Je l'ai désiré, je le veux, je crie après cette résidence. Et qu'est-ce que c'est cette résidence? C'est nous. C'est chacun de nous, c'est toi. Tu es la résidence après laquelle le Père soupire depuis l'éternité et sans lequel le Père est insatisfait. Vous vous rendez compte que le Dieu vivant, le Dieu créateur se rend insatisfait à cause de nous. Il nous veut, nous, pour habiter. Et son rêve de nouvelle maison, c'est nous. Et il s'est bâti une nouvelle maison. Il a fait les plans, il a fait les projets, il a appelé un divin architecte. Et il a dit, construisons une nouvelle demeure pour le roi des rois. Je vais venir habiter dans cette demeure. Et il a bâti. Et il a bâti des corps, il a bâti des temples de chair. Il leur a donné une âme et de l'intelligence, de la sagesse et des émotions. Il leur a donné un esprit. Il a dit, je vais venir habiter dans mon corps, dans mon temple. Amen. Et il n'aura pas de paix tant qu'il n'aura pas rempli ce corps. C'est le lieu de sa paix. C'est comme si le Seigneur disait, mais ma paix, elle n'est pas dans le ciel. Je suis tourmenté dans le ciel parce que je n'ai pas encore mon corps et je n'ai pas mon temple. Le lieu de ma paix, c'est vous. Je suis insatisfait et je trouverai ma paix quand j'habiterai pleinement en vous avec toute ma gloire. Et toute ma puissance et mon règne, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu viendra pleinement dans nos vies, dans son corps, il trouvera sa paix. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il fait pour venir habiter en nous? C'est Yom Kisho un jour qui avait eu ce cri à Dieu. Il disait, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à moi, à ce peuple qui a faim et soif, qui cherche? Il a dit, mais donne-leur ma nouvelle adresse. Mais c'est quoi ta nouvelle adresse? Ben, c'est leur cœur. C'est ma nouvelle adresse, c'est leur cœur. J'habiterai en eux. Et la nouvelle adresse du Seigneur, c'est chez toi. Je vais venir habiter chez toi ce soir. Je vais venir habiter ta vie en plénitude. Que ma volonté soit faite dans ta vie. Que mon règne vienne dans ta vie. Et quand je remplirai ta vie pleinement de ma gloire, j'aurai trouvé la paix. Le Saint-Esprit, et alors la parole nous apprend que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais elle dit aussi qu'avant que le Saint-Esprit ait pu venir dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il soit répandu? Il ne pouvait pas parce que le Fils de Dieu n'était pas encore monté dans les cieux. Il fallait d'abord que le Seigneur accomplisse toute son œuvre de rédemption. Pourquoi? Parce qu'avant que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, il fallait que Dieu fasse un premier miracle. Quel est ce premier miracle qu'il devait faire? C'est que nous soyons en lui. Parce que comme je crois que c'est ce que j'ai entendu, que Luc a dit la dernière fois, il y a un va-et-vient. Nous sommes bâtis en miroir du Père, et le Père est en miroir de nous. Et l'aspiration qui est dans le Père, elle est en nous. Nous soupirons après notre vraie demeure. Nous soupirons après notre vraie maison. Nous soupirons après le lieu de notre paix. Et ce lieu de paix, c'est Dieu lui-même, c'est Christ. Nous sommes en Christ. Et si nous lisons le Nouveau Testament, je suis étonné du nombre de fois où il y a marqué « en Christ ». Je pense qu'on peut dire qu'il y a au moins une centaine de fois. En Christ, en Christ. En Christ. Et le miracle du Père, c'est de t'avoir mis en Christ. Et parce qu'il te met en Christ, il peut venir habiter en toi. Il ne vient pas habiter en toi quand tu es à l'extérieur. Il te met en lui. Et une fois que tu es en lui, il te remplit et il habite en toi. Amen. Vous connaîtrez que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et c'est cet appel qui est devant nous à connaître que nous sommes dans le Père, que nous sommes dans le Fils et qu'il est en nous. C'est le saint appel qui est devant nous. Et alors, j'ai un peu regardé ces différents passages où la Bible dit que nous sommes en Christ. Alors, j'avais tout fait beau pour qu'on puisse l'afficher, puis David m'a dit ça ferait trop de diapos. Alors, ouais, tu crois que ça va aller? Alors, je vais vous lire quelques-uns. Alors, vous me pardonnez si ça fait un peu beaucoup, mais je ne vais pas tout lire. Et encore, j'en ai déjà retenu. Mais je crois que ce sont vraiment des versets qui veulent nous parler. Alors j'ai essayé de les classer. Je voudrais vraiment que ce soit la parole de Dieu qui nous parle. Alors en premier, j'ai vu ceux qui parlent un petit peu de l'objectif de Dieu. Dans Colossiens 19, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans notre culture, on a l'impression que le centre de ce qui doit se vivre dans le monde, c'est nous. Le centre de notre vie, c'est nous. Et Dieu dit, mais il faut d'abord que tu te sois recentré, mon grand. C'est pas toi le centre, c'est pas ce que tu vis. ta richesse ou ta pauvreté, ta gloire ou ta petitesse, tes problèmes ou pas tes problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas ni que je ne les prends pas en compte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas le centre. Et heureusement pour toi d'ailleurs, si c'était le centre, mais tu serais malheureux. C'est ton salut que ce ne soit pas ça le centre. Ton salut, c'est que c'est moi le centre. C'est ton salut, c'est ta délivrance et c'est ta gloire. Et si tu te recentres correctement, beaucoup de choses se réorientent d'elles-mêmes. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est le cri du Père, que tout habite en lui. Tout est appelé à vivre en Christ. Et tout ce qui est en Dieu, en dehors de Christ, va pourrir et tomber en désuétude et en dépérissement, et un jour va disparaître. Et tout ce qui va rester et demeurer, c'est ce qui est en lui. Et la gloire de Dieu pour ta vie, c'est que lui, il te met en lui. Et c'est ton salut. C'est ta délivrance, et tu peux crier de joie parce que Dieu a réussi et t'a mis en lui. Éphésiens 1:10, pour le mettre à exécution, c'est le mystère que Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Amen. Donc ça, c'est l'objectif de Dieu, réunir tout en Christ. Dieu regarde Christ et dit, mais tu es mon but, tu es mon objectif. Et cette habitation que je veux pour mon peuple, elle est en toi. Tout est en Christ. Et c'est le premier et c'est la fin. Deuxièmement, comment il fait le Seigneur ? Je vais lire les versets dans des ordres. Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Est-ce que tu savais que tu avais été créé en Jésus-Christ ? Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vis, mais tu es créé en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Par Dieu, tu es en Jésus-Christ. Et ça nous est difficile à réaliser. On ne comprend pas tout ce que ça veut dire, mais on doit commencer à s'en nourrir. On doit commencer à le dire à notre âme et à notre être. Tu es son ouvrage créé en Jésus-Christ. Tu as été recréé. C'est par lui que tu es en Jésus-Christ, lequel a été fait pour toi, sagesse, justice, sanctification et rachat. Troisième étape. Qu'est-ce que le Seigneur fait ? Première étape, première des grandes choses, il nous crée en Christ et il commence par une mort. Je suis désolé, ça commence par ta mort. Il faut que tu meurs à toi-même. Il faut que tu meurs à ton passé, à qui tu es, à l'histoire qui aurait été la tienne en dehors de moi, à la fatalité qui aurait recouvert ta vie si je n'avais pas été là, à tout le devenir que tu étais destiné et que tu étais un pauvre venir. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, et on va passer celui-là, vous avez été enseveli avec lui par le baptême. Nous sommes morts avec Christ. Regardez-vous comme morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Nous sommes morts en lui. Quand il était à la croix, nous étions avec lui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois mort ? On ressuscite. On ressuscite en lui. Colossiens 2:12, vous êtes ressuscité en lui et avec lui. Colossiens 3:1, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Éphésiens 2:6, il nous a ressuscité ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Romains 6:11, regardez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est un ordre. Est-ce que vous aviez conscience de cet ordre ? Regardez-vous comme vivant en Jésus-Christ. Nous devons nous regarder. C'est un ordre du roi des rois. Regarde-toi comme vivant. Premièrement, regarde-toi comme mort en Christ. Et ensuite, deuxième ordre, regarde-toi comme vivant en Christ. C'est un ordre, on a un besoin. Je me regarde, Seigneur, comme vivant en Jésus-Christ. Je vis en Jésus-Christ. Tu m'as créé en Jésus. Je suis en lui. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait en Jésus ? Il nous justifie et nous sanctifie. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous vous rendez compte que chaque fois le Seigneur précise en lui, il aurait pu ne pas dire en lui. Il aurait pu dire nous devenions justice de Dieu. Ça ne nous aurait pas dérangé. Je crois qu'on n'aurait même pas réalisé la différence. Qui aurait remarqué ? On n'aurait pas remarqué. Mais si le Saint-Esprit le dit à chaque fois, pourquoi il le dit ? Parce que c'est le centre. Tu n'es pas justice de Dieu en dehors de Christ, parce que Dieu n'en a même pas besoin de ta justice. Dieu n'en veut pas de ta justice en dehors de lui. Combien de fois on aimerait être juste ? On se dit, oh si j'étais meilleur, oh si ça allait mieux, oh si j'étais saint. Mais quelque part, on serait content, même si c'était en dehors de Christ. On se satisferait d'une justice en dehors de Christ. Pourvu qu'on soit juste, on serait tout heureux et tout fier. Et le Seigneur dit, mais j'en ai même pas besoin de ta justice. Excuse-moi. Mais elle ne va pas me nourrir, elle ne va rien m'apporter. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois en Christ et qu'en lui, tu sois juste. C'est ta justice en lui. C'est ça que je veux. Alors, première étape avant de chercher d'être juste, cherche et vérifie que tu es en lui. Et quand tu es en lui, tu es juste. Et Paul, vous savez ce qu'il faisait ? Il disait pas « je me suis converti le » ou « je suis né de nouveau le ». Qu'est-ce qu'il disait ? « Je suis en Christ ». Et même il y en a qui ont été en Christ avant moi. C'est lui, c'était sa façon de se repérer. Il était en Christ. Ça nous ferait tout drôle, hein, tu dirais. Depuis quand tu es en Christ ? Hein ? Et de rencontrer quelqu'un, tu es déjà en Christ ? Alors je ne dis pas qu'on doit le faire, mais je dis qu'on doit en avoir conscience. Je dois savoir que la réalité première de ma vie, c'est que je suis en Jésus-Christ. Je ne suis plus seulement moi-même. Je ne suis plus seulement dans ma propre vie, et en essayant d'être qui je peux, en essayant de me bâtir un avenir, en essayant de me bâtir une justice et une sainteté, une vie belle, je suis en Christ et c'est ça le centre de la volonté de Dieu, que tout se passe en Christ. Et tout ce que je le vis en Christ. Alors il y a tous les versets justifiés, bien sûr, hein. Vous pouvez les lire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Même notre élection, même le fait que Dieu nous a vus depuis le début, qu'il nous a choisis, c'était déjà en Christ. C'est en Christ que Dieu voyait tout et qu'il faisait tout. Dieu a tout fait en Christ. Il n'y a rien que Dieu fait en dehors. Alors, 6. Avant ça, j'aimerais que tu puisses passer la petite image, David. Ça t'ennuierait pas ? Dans l'ordre, peu importe l'ordre. Oh, ça dérange peut-être ce que tu avais mis en place. Tu veux, je peux... Oui, bah alors je le fais à la fin alors. Alors, réservez-vous dans coin de vos têtes que j'ai une belle petite image à préparer qui vous parlera peut-être, qui vous aidera à comprendre un peu ça. Hein. Donc, 6. Alors, Dieu n'a pas fini. Il a dit, bah, tu sais, c'est que le début. Hein. Maintenant que tu es mort, ressuscité et juste et saint. Donc ça, j'aimerais bien, vous pourrez tous les parcourir, ces versets, si vous voulez, je peux vous envoyer par mail. Et bien, maintenant, on commence. Hein. Il faut que je vous partage l'image. Je vous la dirai, on la montrera tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe avec une femme enceinte hein? Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Un bébé. Quand la femme enceinte, elle va dans son bain, où il va le bébé? Il est où le bébé? Il est où le bébé? Hein? Il est dans le bain. Quand elle va se promener dans la campagne, il est où le bébé? Dans la campagne. Quand elle est en voiture, il est où le bébé? Hein, Laetitia, il était où le bébé quand tu te promenais? Dans la voiture, hein? Quand elle dort, il est où le bébé? Il est couché avec elle. Tout ce que la maman fait, le bébé le fait aussi. Il participe de tout ce que vit la maman. Vous êtes d'accord? Qui c'est qui nourrit le bébé? C'est la maman. Le bébé, il fait pas grand-chose, hein? Il a juste à recevoir. La maman le nourrit directement. Il est nourri, il est au chaud, il est à l'abri. C'est tout automatique. Le bébé, il a juste à subir, hein, le pauvre. Il subit joyeusement, on va dire, hein? Il est heureux, et tout va bien parce qu'il est dans le ventre de sa maman. Et qu'est-ce qui se passe pour un... Oh, merci David. Et l'autre image, alors, tu veux bien? Qu'est-ce qui se passe avec le kangourou? Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Hein? Il a mis le petit bébé là. Vous avez vu le petit kangourouneau? Il est là, il est au chaud. Qu'est-ce qui va se passer pour le petit bébé quand le kangourou va sauter? Il saute avec. Et si maintenant le kangourou il se met sur ses pattes et il boxe avec un autre, le petit bébé, il participe à la bagarre. Hein? Tout ce que le kangourou fait, le petit bébé va le faire avec. Bon, maintenant, c'est plus un petit bébé. Il est grand. Il est quelque part, il est sorti et quelque part, il est dedans. Et ça, c'est notre réalité à nous. Le Fils de Dieu nous porte en lui, comme la femme enceinte porte le bébé. Il nous porte en lui. Nous avons été mis en Christ. Nous sommes engendrés en lui. Nous avons été engendrés en Christ. Nous sommes nés de Dieu en Christ. Nous sommes comme des bébés en Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que Jésus fait, je le fais avec lui. D'accord? Là où est Jésus, tu es avec. Tu n'es plus différencié de Jésus. Il est ton porteur. Il est ton nourricier. C'est lui qui te nourrit, c'est lui qui t'alimente tous les jours. Il te nourrit sa vie, il est la vie et il fait de toi la vie. Sa vie coule en toi directement. Il y a un canal qui est bâti entre toi et le Fils de Dieu. Tu es nourri par le Fils. Tu es vie de sa vie. Quand il va sauter de montagne en montagne, tu sautes avec lui. Quand il va quelque part, tu es avec lui. Quand il est devant le Père, tu es devant le Père. Quand le Père bénit le Fils, tu es béni avec lui. Quand l'amour du Père coule sur le Fils, l'amour du Père coule sur toi. Tu as été rendu agréable dans le bien-aimé, Éphésiens 1. Tu as été rendu agréable dans le bien-aimé. Tu es dans le bien-aimé. Le Fils de Dieu est agréable au Père. Il fait toute sa joie. Et toi, tu fais toute la joie du Père avec lui. Quand le Fils de Dieu regarde le Père, tu le regardes. Quand le Fils de Dieu parle avec le Père, tu parles avec lui. Quand le Père fait des projets avec le Fils, tu participes au projet. Le Fils de Dieu ne fait plus rien sans toi. Tu n'en es juste pas conscient. Tu ne le sais pas. Parce que tu es encore limité par ton corps. Mais c'est une réalité. Tout ce que vit le Fils de Dieu, tu le vis avec parce que tu es en lui. Parce que tu as cru en lui. Quand tu es né de nouveau, tu es né en lui. Tu as été mis en Jésus par le miracle du Père. La parole de Dieu le dit. C'est par Dieu que tu es en Jésus. C'est le grand miracle. C'est lui qui t'a créé en Jésus. Ça y est, c'est fait. Tu peux te réjouir. C'est une réalité aujourd'hui. C'est la réalité de ta vie. Et alors Éphésiens 1, quand vous le relisez, c'est Paul qui a dû réaliser ça, je pense. Il se dit, mais toute cette bénédiction que nous avons en Jésus, et il a écrit un des plus beaux passages de la Bible. Des fois, je pourrais relire ça, dire ça. C'est Éphésiens 1, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Il nous a bénis en Christ. Il y a la bénédiction qui coule par vagues sur le Fils. Vous sentez les vagues qui coulent ? Ça coule, ça coule. L'amour du Père coule sans arrêt sur le Fils. Et toi, tu prends la douche avec. Tu es dans le bain. Hein ? Tu prends la bonne douche de bénédiction. 1 Corinthiens 5. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui. Pourquoi ? Parce que le Fils de Dieu a tout. Et il n'a pas dit, bon, à lui, je lui ai donné cette petite part de puzzle. Lui, ce puzzle. C'est vrai, dans notre vie, du point de vue de la vie, nous avons une partie. Mais du point de vue de la céleste, du point de vue spirituel, on a tout. Tout ce que le Fils a, tu l'as avec lui, parce que tu es en lui. Tu es le bébé de la femme enceinte. Et tu es aussi le petit bébé du kangourou. C'est-à-dire que quelque part, tu n'as pas perdu ta personnalité. Tu existes en tant que personne, en tant qu'être. Et tu es né, tu es sorti, et en même temps, tu es toujours dedans. Tu es toujours avec le Fils. Tout ce qu'il fait, tu le fais avec lui. Tout ce qu'il vit, tu le vis avec lui. Et en même temps, tu commences à avoir une vie qui t'est personnelle. Amen. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, hein, on en a beaucoup parlé de cette bénédiction d'Abraham que Dieu veut pour nous, elle a son accomplissement où ? En Christ. C'est en Christ que la bénédiction d'Abraham vient. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quand tu es en Christ, tu as tout. En lui, tu es devenu héritier. Tu peux regarder dans la parole tout ce que tu as, rien que parce que tu es en Christ. Et ce n'est plus quelque chose à devenir, c'est fait. Tu y es. Tu es devenu héritier. Ta vie est cachée avec Christ, hein, dans Colossiens 3, 3. Votre vie est cachée avec Christ. Votre vie est cachée. C'est merveilleux pour nous de savoir que notre vie est cachée. Et quand sa vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Tout ce que le Fils de Dieu va vivre désormais, on va le vivre avec lui. Quand le Seigneur va venir dans son règne, nous serons avec lui. Amen. Alors, 7. Oui, en Christ. 2 Corinthiens 9, le Fils de Dieu qui était prêché parmi nous au milieu de vous n'a pas été oui, non, mais c'est oui qui est en lui. 2 Corinthiens 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. 8, un corps en Christ, hein, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Ainsi que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Donc individuellement, Dieu nous a mis en Christ, mais aussi tous ensemble, nous sommes en Christ. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ce corps en Christ ? Il se cherche les uns les autres. Il vit tout ensemble parce qu'il est en Christ. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Moi, je vais vous dire aussi tout à l'heure. Saluez-vous les uns les autres pour un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Les églises de Dieu sont en Jésus-Christ. Un Thessaloniciens. J'avais jamais vu ça, j'ai déjà une fois dit ici. Même Paul, il disait que les églises sont en Jésus-Christ. Nous, en tant que Josué, on est en Jésus-Christ. On a besoin de le savoir et de le proclamer. Nous sommes en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes gardés et sa grâce coule sur nous. Et il a voulu créer en lui-même un seul homme nouveau. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Amen. Amen. Je vais sauter le 9. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a tout ça, on peut vivre ce que Dieu avait promis au début. Christ en nous, par son esprit. Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse glorieuse de ce mystère parmi les païens. Christ en vous. Amen. L'Esprit de Dieu sera en vous. Je suis en vous. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça y est, il habite. Le Saint-Esprit, si tu lui demandes son adresse, il va te dire « Ah ben j'habite. J'habite chez Didier. J'habite chez Christophe. J'habite chez Stéphane. J'habite chez chacun des miens. J'habite chez lui. » Amen. C'est notre gloire. Est-ce que vous avez déjà vu ici? Touchez votre poitrine. Il y a l'Esprit de Dieu qui habite chez moi. Je suis sa maison. Il est chez moi. Et je pense qu'on doit le dire à notre âme. Tu es la maison de l'Esprit. Il habite en toi. Amen. Psaume 27. Verset 4. Alors, vous avez lu le psaume 130, c'était le désir du Père. Le désir de Dieu, le désir du Fils et de l'Esprit. Verset 4. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais que je désire ardemment. Le désir de l'enfant de Dieu. Vous avez vu, il répond au désir du Père. Je présente un seul souhait, mais que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Vous vous rendez compte? Ce psaume 27 fait écho au psaume 130. L'Esprit veut habiter, c'est son désir ardent d'habiter en toi. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton désir ardent, c'est d'habiter le temple. Et c'est quoi le temple? Quel est ce temple? C'est le Fils. Il est ton temple. Il est ta maison. Il est ta nouvelle adresse. Tu habites en lui. Tu habites en lui. C'est ta maison. Et le souhait ardent de notre cœur, ce souhait ardent qui brûle en nous comme la création soupire, cet ardent désir de la révélation de la gloire, il est en nous. On l'a oublié. Il est souvent couvert par plein de choses. Laissons-le revivre. Laissons-le remonter à la surface, ce désir ardent d'habiter dans la maison du Père. Pourquoi? Afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, de contempler la gloire de son temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a appris à essayer de voir la gloire de Dieu de l'extérieur. On s'est mis dans les parvis et on regarde le temple de loin. Waouh, le temple, comme il est beau. Waouh, la gloire de Dieu. Waouh, quand on voit les miracles. Quand on voit de la gloire de Dieu qui descend quelque part. Waouh, c'est beau. Et on le contemple de loin. On le contemple de l'extérieur. Et on n'a pas compris que Dieu fait de nous partie prenante. On ne comprend pas que Dieu nous a reliés à lui pour qu'on soit plus qu'un seul corps, plus qu'un seul être avec lui. Dieu ne nous voit pas séparés de lui. Il nous voit un en lui, unis en lui. Et alors quand tu contemples le temple, quand tu vas contempler la gloire de Dieu, tu la contemples plus de dehors, tu la contemples plus en te disant « Oh, comme c'est beau !» Et puis toi, tu te vois plus que comme une poussière, une faible plante qui pousse dans un terrain desséché. Comme un petit rien du tout qu'on peut balayer. Mais maintenant, tu es dans la maison. Tu fais partie de la vie de Dieu. Tu es dans le temple. Et le temple, tu ne le contemples pas de dehors, mais tu le contemples de dedans. Tu contemples Christ de l'intérieur. Tu es dans le temple. Tu es dans le Fils. Tu es en Dieu. Dieu t'a mis en lui. Et maintenant, tu le regardes de dedans. Tu regardes l'intérieur de la maison. Tu regardes Christ de l'intérieur. Tu regardes ses pensées. Tu regardes son cœur. Tu regardes ce qu'il ressent. Tu regardes la gloire de Dieu de l'intérieur et on ne la connaît pas. Alors quand je vous parle ça, ce sont encore des mots qui ne veulent pas dire beaucoup parce qu'on ne sait pas, on n'a pas appris. Mais maintenant, c'est l'heure d'apprendre. C'est l'heure de prendre le temps et d'apprendre, de contempler la gloire de l'intérieur. Parce que tu y es. Tu y es. Tu es dedans. Laisse la gloire de Dieu couler dans ta vie. Tu en fais partie. La gloire de Dieu, elle sera complète que quand toi, tu seras pleinement dedans. La gloire de Dieu, elle n'est pas en dehors de toi. Elle est avec toi. Tu fais partie de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui va descendre, c'est quand toi, Tu rentreras pleinement dans tout ce que Dieu a pour toi, ce sera là la gloire de Dieu. Elle n'est plus en dehors de toi. Ce n'est pas quelque chose de magnifique qui descend, que de l'or par exemple. C'est vrai, l'or en fait partie. L'or, c'est la gloire de Dieu. Le fleuve, c'est la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, elle est avec toi. C'est quand toi, tu vas remplir toute la place qui la tienne et que tu prendras toute ta place et que tu rempliras le monde avec qui tu es en Christ, que la gloire de Dieu sera là. Ce n'est pas en dehors de toi, c'est avec toi. Seigneur, une chose je désire ardemment. Seigneur, réveille en nous de nouveau cet ardent désir. Je crois que ce que Dieu désire et attend ardemment, c'est ton ardent désir. Le Seigneur attend ton ardent désir. Que le Seigneur réveille l'ardent désir en nous, d'admirer son temple, de le connaître. Pourquoi ? Parce qu'il me cachera dans sa tente au jour du malheur, dans le secret de son tabernacle. Il nous cache où ? En lui. Nous sommes en lui. Il est notre maison. Et on avait besoin d'être en lui. Et tous les versets dans la parole de l'Ancien Testament, ils disaient, nous cherchons, nous espérons en lui, nous prenons refuge. C'est tous des versets qui disaient, en lui. Croire dans l'Ancien Testament, c'était se réfugier en lui. Et je crois qu'aujourd'hui, au jour des malheurs qui peuvent attendre, nous atteindre et nous attendre, notre refuge, notre sécurité, ce sera de nous réfugier en lui. De prendre notre place en lui par la foi. Ce sera ça notre refuge. Proverbe 20, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste est s'y réfugier et s'y trouve à l'abri. Qu'est-ce que c'est le nom de l'Éternel ? C'est la personne. C'est vrai, on peut proclamer le nom. Ça fait partie de la proclamation. Mais le nom de l'Éternel, c'est sa personne. Le juste se réfugie en Christ et il est en sécurité. Et nous devons apprendre à nous réfugier en Christ. Nous devons apprendre à proclamer que nous sommes en lui et que nous avons tout pleinement en lui. Que notre Dieu pourvoit tous nos besoins en lui. Que nous sommes héritiers en lui. Nous sommes bénis en lui. Le juste se réfugie en lui et il est en sécurité. Amen. Alors pour terminer, j'aimerais revenir à cette partie 7. Pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est un drôle de mot. Est-ce que ça vous parle? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans l'Ancien Testament, quand la femme faisait un vœu, le mari devait valider ce vœu. Si du soir au matin, il n'avait rien dit, le vœu de la femme était validé. Si l'homme il disait non, je ne suis pas d'accord avec ton vœu, il avait le droit de briser ce vœu et la femme ne devait plus accomplir ce vœu devant Dieu. Elle n'était plus liée. Ok ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Dans le cœur du Père, dans la Trinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit, il y a eu des vœux qui ont été faits. Il y a eu des vœux de bénédiction pour ta vie. Ils ont dit, on va créer un temple, une habitation pour nous. Et ce temple, on veut le bénir. Cette maison, on veut que notre richesse habite en elle. Et des vœux ont été faits en Dieu pour toi. Et vous savez ce qui a été fait ? Il y a eu validation dans le cœur du Père. Le Père, le Fils et l'Esprit ont dit, oui, oui, nous les bénirons. Oui, les vœux s'accompliront. Ces vœux, ce sont les promesses que la parole de Dieu contient. Tous les vœux qui ont été faits dans le Père ont été écrits dans la parole. Afin que toi, tu en aies connaissance. Que tu saches qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du Père. Dans le cœur de la Trinité, dans l'éternité, ils ont dit ces promesses pour ta vie. Ils ont dit oui, nous accomplirons ça, nous voulons accomplir ça dans sa vie. Oui, cela, nous le ferons. Et il y a eu validation. Ok, c'est fait, c'est écrit. Et c'est comme la loi des Mèdes et des Perses, que cela soit écrit et que cela soit accompli. Amen. Et alors, qu'est-ce que le Père a fait ? Dans 1 Corinthiens, il y a marqué, c'est en lui qu'est le oui. Ce oui, il était envoyé dans le monde et il a pour nom Jésus. Quand le Fils de Dieu est venu, c'était la validation, la ratification de toutes les promesses de Dieu. Le Père vous disait, mon fils, ma fille, c'est oui. C'est oui. C'est oui à tout ce que je veux pour ta vie. C'est oui à tout ce que je t'ai promis. C'est oui à ta gloire. C'est oui à l'héritage que j'ai pour toi. C'est oui. Oui, je veux que tu sois heureux. Oui, il n'y a pas oui et non en moi. C'est pas non, c'est pas oui et non. C'est oui. Ce ne sera pas oui à tout ce que toi tu veux peut-être. Mais c'est oui à tout ce que moi je t'ai promis. C'est oui, 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 oui. Et alors la suite, c'est pourquoi encore, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par nous, pardon, l'amen par lui est prononcé par ta bouche. Donc il y a une deuxième validation, une deuxième ratification. Dans la Trinité, ils ont dit oui. Et maintenant, le Saint-Esprit, le Père a envoyé le Fils, il dit oui. Et toi, tu dis quoi? Et toi, tu dis quoi? Et toi, tu es appelé à dire oui aussi. L'amen aux promesses de Dieu dans ta vie est prononcé pas par le Père, pas par le Fils. Ils ont déjà dit oui. Ils ont dit amen. Mais il est prononcé par toi. Parce que toi, tu es en lui. Tu fais partie maintenant de l'espèce. Tu fais partie de la race. Et maintenant, toi, tu dis oui. Amen. Seigneur, cette promesse, amen. Et il y a ratification. Et le vœu va être accompli dans ta vie. Et toi, tu restes sur cette amen parce que tu fais partie de l'accomplissement des promesses dans ta vie. Tu les prononces avec. C'est dans la parole. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. L'amen par lui est prononcé par nous. Et il y a une dernière chose que j'aimerais encore dire sur le fait que Dieu nous a mis en Christ. Vous savez ce que Dieu a dit quand il a créé le monde? Il a dit que la terre produise des arbres selon leur espèce avec la semence qui est en elle. Qui est l'arbre? C'est Christ. L'arbre de vie, c'est Christ. Et le Seigneur a dit que l'arbre de vie produise du fruit selon son espèce avec la semence qui est en lui. Tu es appelé à être un arbre. Tu es un arbre de vie. Le Seigneur a dit que le Fils de Dieu produise des arbres selon son espèce. Et nous sommes les arbres selon l'espèce de la race divine. Nous sommes de la race divine, nous sommes des arbres et qui portons en nous une semence. Et nous sommes appelés à porter d'autres arbres. Amen. Tout ça parce que nous sommes en lui. Amen. Alléluia Seigneur. Papa, merci pour tous tes projets. Merci parce que tu fais au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous pensons à des choses, nous essayons de comprendre des choses. Nous essayons de saisir ce que tu as voulu dire. Et nous avons du mal. Nous sommes lents. Tu disais à tes propres disciples, qu'est-ce que vous êtes lents à croire? Nous sommes lents. Pardon pour notre lenteur. Merci parce que tu as décidé d'agir avec des êtres même lents. Et tu te glorifies dans des êtres lents. Nous sommes lents. Mais je te loue que tu nous en tiens par rigueur, tu nous en veux pas. Tu nous aimes ardemment. Merci pour ton amour ardent envers nous. Pardon parce que nous sommes lents à croire. Et Seigneur, maintenant nous crions à toi afin que cette lenteur s'éloigne de nous, afin que nous devenions prompts. Seigneur, nous crions à toi pour qu'il y ait une nouvelle promptitude dans nos vies, promptitude à croire, promptitude à avancer avec toi et à obéir. Seigneur, promptitude à aller de l'avant avec tes paroles, promptitude à saisir une parole et à marcher avec cette parole. Quand un soldat recevait un ordre de mission, il faisait son paquet, il partait le lendemain matin et il allait en route et plus rien ne l'arrêtait. Seigneur, que ta parole devienne des ordres de mission dans nos vies. Seigneur, ce sont des vœux et des promesses que tu as faites envers nous. Parce que toi, tu t'es dit, je me lie par les paroles de ma bouche envers vous. Parce que je veux agir dans vos vies. Mais vous, vous ne prenez pas compte même que moi je me suis lié. Et vous ne voulez pas prendre mes paroles et vous lier à ces paroles. Maintenant, au nom de Jésus, nous voulons nous lier à tes paroles. Seigneur, si toi tu t'es lié à tes paroles, si tu les as prononcées comme des vœux afin d'agir, parce que tu savais que un vœu brisé est une malédiction, et tu as dit, mais je ne briserai pas mes vœux. Seigneur, nous voulons nous lier aussi à tes vœux, et nous lier à ces vœux pour dire, mais nous marcherons avec tes paroles. Seigneur, nous ferons que tes paroles deviendront des choses ardentes dans nos vies. Seigneur, nous voulons plus marcher en faisant comme si tes paroles n'avaient pas d'importance, comme si nous arrivions à accomplir notre vie sans tes paroles, sans l'espérance que tu mets devant nous. Seigneur, nous voulons nous lier à tes paroles. Et nous voulons dire qu'elles deviennent importantes, elles deviennent précieuses. Nous voulons nous lier à elle comme des vœux. Qu'elle devienne des vœux dans nos vies. Des vœux pour l'accomplissement. Parce que Seigneur, c'est comme ça que ta gloire va venir dans le monde. Seigneur, nous voulons dire Amen. Amen à toutes tes paroles. Et Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance que tu nous as mis en Christ. Merci parce que nous pouvons contempler le Fils de l'intérieur. Nous devenons héritiers de tout ce qui est à lui. Nous sommes aimés en toi. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec toi. Seigneur, que cette réalité devienne tangible dans nos vies. Qu'elle devienne aussi concrète que ce que nous vivons tous les jours. Merci parce que tu nous dis à toute, chaque fois que nous avons des questions, première réponse, tu es en Christ. Tu es en lui, tu es assis dans les lieux célestes avec moi. Deuxième réponse, mon esprit habite en toi pour ta vie sur la terre. Tous les jours, il marche avec toi dans ce que tu vis. Il est là dans tout ce que tu vis, jour après jour. Il te remplit de force. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il habite en toi. Ne sais-tu pas que tu es le temple? Tu es le temple. Que ces deux paroles soient ta force jour après jour. Et que tu marches avec les paroles que je t'ai données. Et que tu la mène soit accomplie dans ta vie par ta parole. Au nom de Jésus. Amen.